toute la version de Laurent Ségala qui dit « elle est tombée dans l'escalier, je suis arrivé, elle était sur le point de mourir, j'ai tenté de la sauver » est évidemment battue en brèche.
Ce n'est plus qu'une question de jour. Mais c'est sans compter un incroyable coup de théâtre. Lausanne, en Suisse, le 9 janvier 2010. Nous sommes au beau milieu de l'hiver, la nuit est déjà tombée et il fait froid. Il est 21h16. Lorsque le téléphone retentit au centre de secours du SAMU suisse, le 144. L'urgentiste du standard décroche. À l'autre bout du fil, c'est un homme. Il est français. Il s'appelle Laurent Ségala.
Bonsoir, 144, les ambulances.
Oui, je vous appelle parce que j'ai trouvé ma mère en bas de l'escalier. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la réanimer, mais j'ai pas réussi à la sauver.
Mais comment ça? Elle est décédée?
J'ai tout essayé. Massage cardiaque, bouche à bouche, tout.
J'ai trouvé ma belle-mère qui baigne dans une flaque de sang. J'ai tenté de la réanimer. Je crois qu'elle est morte. Je sais pas. Enfin, les propos sont décousus. La conversation est très courte.
J'ai essayé de la réanimer pendant une heure en tentant tout ce que je savais. Je crois que c'est trop tard.
Pendant une heure, mais vous auriez dû nous appeler avant.
Oui, mais j'étais pas à côté du téléphone.
Une heure pour réanimer, cela semble très long pour le médecin urgentiste.
Il y a un doute, des incohérences sur le temps que Laurent Ségala aurait passé à tenter de réanimer. La victime, au lieu d'appeler très vite des professionnels sur cette histoire.
Le médecin envoie une ambulance, mais pas seulement. Car face à ce récit qu'elle juge incohérent, elle passe un autre coup de fil.
Elle appelle bien sûr le médecin urgentiste, mais elle appelle aussi la police.
Aussitôt alertés, policiers et secours se mettent en route pour le Moulin de Vaux sur Morge, à l'adresse indiquée par Laurent Ségala. Cette petite commune n'est située qu'à une vingtaine de kilomètres de Lausanne. Lorsque les secours arrivent sur place, personne pour les accueillir, mais ils trouvent la porte ouverte. La médecin urgentiste pénètre la première dans la maison.
Ils arrivent et ils entrent dans cette pièce, c'est une antichambre en fait, au pied d'un escalier, seul l'escalier est allumé.
À ce moment-là, Laurent Ségala descend.
Laurent Ségala vient à leur rencontre, il est un peu hébété ailleurs, un peu à côté de la plaque, comme on dit vulgairement.
Une fois la lumière allumée, le médecin constate qu'en bas des marches, là où serait tombée Catherine Ségala, la belle-mère, il n'y a personne.
Elle s'attend à voir le corps, la victime au pied de l'escalier, ce qui n'est pas le cas.
Le médecin demande alors à Laurent Ségala où se trouve Catherine Ségala. L'homme les conduit dans la pièce voisine. L'urgentiste se penche alors sur le corps. Le constat est sans appel.
Non, c'est vraiment pas joli à voir et il est impossible de tenter quoi que ce soit pour la réanimer. Il est trop tard.
Elle a le crâne fracassé. Elle baigne dans du sang. C'est un spectacle assez épouvantable. J'ai vu la photo du crâne de Madame Ségala. C'est assez impressionnant.
Selon les premières constatations du médecin, la sexagénaire serait décédée des suites d'une mort très violente. A priori, il s'agirait d'une terrible chute accidentelle dans l'escalier. Mais les policiers, eux, s'interrogent déjà sur les circonstances exactes du décès et pour cause.
On constate énormément de plaies. Alors, est-ce qu'on peut... On peut se tuer, effectivement, en tombant d'un escalier, mais est-ce que la chute provoque autant de plaies sur la tête, sur le crâne, sur le corps? Ça, la question est... Toute la question est là.
Laurent Ségala aurait affirmé au secours que sa belle-mère était tombée sur le carrelage et avait beaucoup saigné. Or, le sol est immaculé. Les policiers demandent alors une explication aux Français.
Ce qu'il explique, lui, c'est qu'il a épongé parce qu'il ne pouvait plus, nerveusement parlant, voir tout ce sang.
Laurent Seguela, lui, explique qu'effectivement, il a la phobie du sang, il ne supporte pas le sang, qu'il a tenté de nettoyer la scène du drame, parce qu'il a horreur du sang.
Les policiers s'interrogent sur cette explication. Pourquoi un homme qui aurait peur du sang se plongerait-il dedans pour le nettoyer ? Pour vérifier les dires de Seguela, les policiers passent la scène au Blue Star.
Ils vont passer le pied de l'escalier, tout l'endroit où Laurent Seguela dit avoir retrouvé sa belle-mère, avec une substance chimique qui s'appelle le Blue Star ou luminol, qui permet de révéler des traces de sang, des traces de matériaux organiques, disons.
Après quelques secondes, de nombreuses traces bleues apparaissent. Les policiers le savent, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose.
Le carrelage est maculé de sang, de sang qui a été nettoyé. Ce sont plusieurs litres de sang peut-être qui ont été répandus à cet endroit-là.
La vieille dame serait donc bien tombée en bas de l'escalier. Autre point qui intrigue les policiers, pour quelle raison Laurent Seguela a-t-il déplacé le corps de la victime ? Encore une fois, l'homme a une explication apparemment logique.
D'après des souvenirs de formation de secouristes, il savait quelqu'un qui est en choc d'une manière ou d'une autre a froid. Il a tenté de la ranimer sur un matériau plus chaud.
Mais il y a un autre élément, beaucoup plus troublant. Le Français porte d'étranges marques sur le visage et une partie du corps.
Très vite, il remarque que non seulement Laurent Seguela est très choqué, mais qu'en plus, il porte au visage et au cou, au début du torse, de nombreuses griffures.
Il a effectivement des petites plaies sur le dos des phalanges et il a des griffures à côté de l'oreille et sur la lèvre supérieure.
D'où viennent ces blessures ? Laurent Seguela a une réponse.
Il explique les traces de griffures et de blessures qu'il a au visage, sur le cou, sur les mains. Il explique ça qu'il a voulu déplacer vers la chaufferie en mesurant une distance d'environ 3 mètres. Celle-ci l'a agrippé et lui a fait ses différentes écorchures et griffures avec ses bagues, etc., et sa montre.
Enfin, un dernier détail intrigue les enquêteurs.
Son pantalon, ses chaussures, ses mains sont tachées de sang, mais sa chemise est dans un état correct.
Alors, comment Laurent Seguela a-t-il fait pour transporter le corps et nettoyer la flaque de sang sans tacher sa chemise ?
Il lui pose la question, savoir s'il a changé quelque chose, et il explique que oui, il a changé de chemise. Donc déjà, les policiers commencent à fouiller un peu dans la maison, et ils trouvent au pied de la machine à laver une chemise couverte de sang.
Problème, alors que les enquêteurs fouillent le linge sale, ils font une autre découverte.
Il ne trouve pas une seule chemise tachée de sang, mais deux chemises tachées de sang. Or, Laurent Seguela n'a parlé que d'un seul changement de vêtement.
On retrouve dans le tambour de la machine à laver une chemise maculée de sang.
Pourquoi Laurent Seguela n'a-t-il rien dit à propos de cette seconde chemise ? Sous le coup de l'émotion, l'homme ne se souvient plus très bien de ses faits et gestes au moment de la découverte du corps.
Cette deuxième chemise et même la première ne sont pas dissimulées, ne sont pas ou détruites ou dénaturées. C'est dans des endroits très faciles d'accès. La deuxième chemise est cachée à quelques dizaines de centimètres de la première.
Malgré tout, avec deux chemises ensanglantées, des griffes sur le corps et le visage et plusieurs litres de sang nettoyé, les policiers soupçonnent Laurent Seguela d'avoir frappé sa belle-mère.
Il y a un inspecteur qui lui pose la question « Est-ce que vous avez fait une grosse bêtise ?» Et là, l'homme répond « Je vous en prie, un peu de tenue. »
Laurent Seguela monte tout de suite sur ses grands chevaux et qui dit « Enfin, écoutez, un peu de respect. » Mais ça ne lui plaît pas du tout.
Lui, il se défend bien d'avoir porté le moindre coup sur sa belle-mère. Il part en garde à vue.
Avant même de l'interroger au commissariat, les policiers conduisent Laurent Seguela à l'hôpital pour l'examiner.
sur le chemin de la garde à vue, ils conduisent Laurent Ségala à l'hôpital pour des prélèvements. Regardez ce qu'il a sous ses ongles. Constater devant médecin les griffures qu'il porte au visage et au cou.
On le photographie aussi, on le photographie de face, de profil, on photographie ses balafres, ses griffures, ses hématomes, tout ça de manière scientifique et rigoureuse.
Après avoir subi ces différentes analyses, Laurent Ségala est conduit au commissariat pour être auditionné. Il est presque 3 heures du matin. Quand les policiers demandent à Laurent Ségala de décliner son identité, ils réalisent très vite qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. L'homme est un scientifique de renommée internationale. Et a priori, il n'a rien du profil d'un tueur.
La première chose qu'ils voient, c'est que Laurent Ségala, c'est un chercheur du CNRS, un généticien plus précisément, spécialisé dans les myopathies.
Qui est passé plusieurs fois à la télévision, qui a fait des livres sur la génétique, qui sont particulièrement... qui ont été particulièrement remarqués. Il est passé chez Frédéric Taddeï.
Scientifique reconnu, Laurent Ségala a en effet participé à cette émission culturelle. C'était un mois, jour pour jour, avant le drame.
La recherche est-elle dans une impasse? Fait-on encore des découvertes importantes? On en débat donc avec Laurent Ségala, généticien, directeur de recherche au CNRS, où vous travaillez sur la génétique fondamentale et les maladies génétiques. Vous pensez qu'on ne fait plus aucune découverte importante depuis quelques décennies?
Non, il ne faut pas dire ça. On continue de faire des découvertes importantes, mais, et là, c'est le citoyen qui parle, pas le chercheur. J'ai l'impression quand même que le pas de la science a ralenti au cours des dernières années, des dernières décennies.
Laurent Ségala est épanoui dans son travail. Et comme en attestent ses archives personnelles, il est également un père de famille heureux.
Il a 3 filles d'un premier mariage et il vit à Thonon avec une compagne dont il a un enfant.
Travaillant au CNRS de Lyon, Laurent Ségala a déménagé 8 mois plus tôt à Thonon-les-Bains pour des raisons familiales. Son père, Roger-Jean Ségala, souffre d'une insuffisance cardiaque et n'est plus à même d'assurer seul la gestion de sa librairie de livres anciens. Une librairie renommée dans toute l'Europe.
Il se partage entre le CNRS, son activité professionnelle, le domicile familial est à Thonon et il aide son père à la librairie de Lausanne.
Il avait décidé de lentement baisser son activité de scientifique et à la demande de son père et de la victime, Catherine Ségala, il avait accepté de devenir directeur de la librairie de livres rares, de livres anciens, que son père avait mis toute sa vie à construire.
Retour au commissariat. Les enquêteurs demandent à Laurent Ségala de livrer son emploi du temps le jour du drame.
Il raconte qu'il a quitté le matin son domicile de Thonon, les bains.
En début de matinée, il apprend que son père, Roger Jean, a été victime d'un malaise cardiaque et qu'il a été hospitalisé. Avant de lui rendre visite, il aurait décidé de faire un crochet par la librairie.
Ensuite, il allait manger avec Catherine au Moulin, entre 13h30 et 14h.
Au Moulin, c'est la maison de Roger Jean et Catherine Ségala.
Ensuite, ils sont allés à l'hôpital voir Roger.
Laurent Ségala serait resté 1 heure sur place avec son père et sa belle-mère. Puis, il aurait quitté l'hôpital de Morges pour se rendre à nouveau à la librairie, où il aurait passé une bonne partie de l'après-midi.
Laurent, lui, a travaillé à la librairie. On sait qu'il a arrêté son ordinateur à 17h30, autour de 17h30. Il dit avoir eu un client ensuite et avoir rangé la librairie.
Il dira ensuite qu'il est parti vers 18h, 18h15 de la librairie pour se rendre à l'hôpital de Morges, où son père était hospitalisé.
Vers 18h30, Laurent Ségala retourne donc pour la deuxième fois ce jour-là à l'hôpital. Il déclare être resté à côté de son père 20 à 30 minutes avant de se rendre à nouveau au Moulin. La femme de son père, Catherine, l'y attend pour dîner.
Lui affirme être arrivé vers 19h30, 20h30 au Vieux-Moulin.
19h30, 20h30, un créneau beaucoup trop vague pour les policiers. Ils s'interrogent. Comment se fait-il que Laurent Ségala ne se souvienne pas de l'heure exacte à laquelle il s'est rendu au Vieux-Moulin la veille au soir ?
Les policiers se posent la question quand même. Bah oui, mais comment vous ne savez pas, vous savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à 19h30 ou 19h45 ou 20h ou voilà, quelque chose de plus précis que un faisceau, un créneau, une fenêtre d'une heure. Il dit ouais, je porte pas de montre, j'aime pas ça, je n'ai jamais porté de montre et j'en porterai pas. Voilà.
Autre question. Selon ses dires, Laurent Ségala aurait mis entre 30 minutes et 1h30 pour parcourir les 4 km qui séparent l'hôpital du Moulin. Encore une fois, c'est imprécis, mais l'homme a une explication crédible.
Il dit que les routes étaient enneigées, qu'il a mis du temps pour aller de la librairie à l'hôpital de Morges, de l'hôpital de Morges à Vaux-sur-Morges, au Moulin.
Une situation argumentée par le fait qu'il avait des pneus d'été, qu'il neigeait beaucoup, que la route n'est pas plate, ça monte, ça redescend. Qu'il a dû s'y reprendre à 2-3 fois pour passer dans des coins.
Et c'est donc en arrivant au Moulin qu'il aurait trouvé sa belle-mère allongée sur le sol.
Tout de suite, il découvre sa belle-mère qui gît au bas d'un escalier extrêmement pentu. Donc il se précipite tout de suite pour aller voir ce qui se passe. Quand il arrive, elle est encore en vie. Elle est inconsciente, mais elle est encore en vie.
Le généticien explique qu'il aurait tenté de réanimer sa belle-mère, et ce durant près d'une heure. Les policiers lui posent alors une question essentielle. Mais pourquoi ne pas avoir appelé les secours de suite ? Laurent Ségala affirme avoir été pris de panique.
Il explique qu'il n'avait pas le numéro des urgences vaudoises, lui-même étant français, qu'il a dû monter à l'étage chercher l'annuaire de téléphone pour découvrir que le 144 était le numéro des urgences et qu'il ne voulait donc pas perdre de temps, un temps précieux, dit-il, à chercher ce numéro alors que sa belle-mère agonisait.
C'est un geste absolument spontané. Il dit, moi, j'ai fait un peu de secourisme. Il voit sa belle-mère au bas de l'escalier. Son premier geste, c'est de dire, je vais essayer de la réanimer. On ne peut pas lui faire le grief de ne pas avoir téléphoné au secours. C'était soit l'un, soit l'autre.
Après avoir tenté en vain de réanimer Catherine Ségala, Laurent appelle les urgences. Il est 21h16. Après avoir raccroché, Laurent raconte avoir nettoyé le sol, s'être lavé les mains et le visage et s'être changé avant l'arrivée des secours à 21h50. Laurent Ségala aurait donc tout fait en moins de 34 minutes. Le délai semble court pour les enquêteurs. D'autant qu'un autre élément les intrigue.
On l'a accusé d'avoir utilisé des serpillères et de l'eau de Javel. En tant que scientifique, il devait connaître le pouvoir de l'eau de Javel, le pouvoir destructeur sur d'éventuels indices, comme des traces ADN.
Sur ce point précis, Laurent Ségala ne se souviendrait plus de quel produit il se serait servi pour nettoyer la mare de sang.
Dis-moi, j'étais plus moi-même. J'avais tenté pendant 45 minutes de réanimer celle qui était proche de mon cœur et j'étais bouleversé, en fait.
Une explication qui ne semble pas convaincre les enquêteurs.
L'explication du comportement de Laurent Ségala ce soir-là, par une charge émotionnelle qui doit être énorme, bien sûr. Les policiers, c'est pas leur problème.
Les policiers continuent d'interroger le suspect. Mais Laurent Ségala perd patience et se montre de moins en moins coopératif.
Il a cette attitude en permanence, il est arrogant. Parfois, il leur dit « votre question n'a ni queue ni tête ». Il refuse de répondre à certaines questions, il relit tous les procès-verbaux de manière très rigoureuse, corrige une virgule, précise un mot.
Et il est vu comme arrogant, hautain, sûr de lui, froid. C'est perçu par les policiers comme des éléments quasiment à charge.
Laurent Ségala est un scientifique qui croit que toutes les sciences, et notamment la science juridique, est une science exacte. Je suis innocent, pense-t-il, donc mon innocence, obligatoirement, va éclater au grand jour. Et c'est vrai qu'il ne fait pas véritablement d'efforts pour essayer d'accompagner la machine judiciaire suisse.
Après plus de 4 heures d'interrogatoire, l'audition prend fin. Il est près de 8 heures du matin. Les policiers semblent convaincus que Laurent Ségala ne leur dit pas toute la vérité. Pas de mobile, pas de preuves. Les policiers devront miser sur les premiers résultats des expertises pour confirmer leurs soupçons. Janvier 2010. En fin de matinée, les premiers résultats d'autopsie tombent. L'hypothèse de la chute accidentelle ne serait pas privilégiée.
Les constatations médico-légales privilégient très fortement l'intervention d'un tiers et jugent l'état des blessures incompatible avec une chute dans les escaliers.
La seule chute dans l'escalier n'explique pas la totalité des contusions et des plaies que l'on relève notamment sur le crâne, sur le cuir chevelu. Et les médecins légistes vont estimer qu'il y a eu coup porté à la tête avec un objet contondant.
Autrement dit, Catherine Ségala aurait été tuée de plusieurs coups assénés sur le crâne. Les policiers cherchent alors l'arme du crime, aux environs, mais surtout à l'intérieur de la maison. Le résultat des fouilles n'est pas très probant.
Dans le moulin, on a retrouvé 3 marteaux, mais aucun n'a servi à l'agression.
Aucune trace de sang sur les outils et pourtant le rapport d'autopsie est formel. Un objet contondant a été utilisé pour tuer.
À l'instant où les médecins légistes estiment qu'il y a eu coup porté sur la tête, toute la version de Laurent Ségala qui dit « elle est tombée dans l'escalier, je suis arrivé, elle était sur le point de mourir, j'ai tenté de la sauver », est évidemment battu en brèche.
Pour eux, c'est pas plié, mais on va quand même dans un certain scénario qui se dessine. C'est-à-dire, voilà, très clairement, un meurtre commis à l'aide d'un marteau et une tentative de nettoyage de la scène de crime.
Quant aux traces de griffures que Laurent Ségala porte sur le visage et sur la poitrine, elles seraient le signe que la victime s'est défendue. Et ils en veulent pour preuve l'ADN retrouvé sous les ongles de Catherine Ségala.
L'ADN est identifié, c'est celui de Laurent Ségala. Une constatation qui colle parfaitement avec les griffures que porte Laurent Ségala au torse et au visage.
Alors évidemment, les enquêteurs supposent que c'est Laurent Ségala, que c'est peut-être une dispute qui a mal tourné, et qu'il y a eu sans doute une lutte entre les deux protagonistes.
En revanche, l'autopsie est incapable de fournir l'heure précise du décès de Catherine Ségala. Les légistes estiment simplement que la mort serait intervenue entre 15h et 21h. Le dossier comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Toutefois, le juge d'instruction préfère ne prendre aucun risque. Laurent Ségala est français. Le meurtre a été commis en Suisse. Après 48 heures de garde à vue, le suspect pourrait être tenté de prendre la fuite.
Comme il est français et que Morges comme Lausanne sont au bord du lac Léman et qu'il suffit de prendre un bateau et en une demi-heure on est en France et que la France n'extrade pas ses ressortissants, on peut penser que si on le laisse en liberté, il ira en France et en France il ne reviendra pas en Suisse.
Laurent Ségala est donc immédiatement placé en détention provisoire dans cette prison dans l'agglomération de Morges. Et ce, en attendant de nouveaux éléments.
On a un suspect et un seul suspect, c'est Laurent Ségala. Maintenant, on n'a pas d'arme du crime. On a des blessures qui sont tout à fait compatibles avec des coups portés. Et on n'a pas de mobile. Alors on recherche un mobile.
En enquêtant sur la vie du suspect, les policiers constatent que Laurent Ségala, son père, Roger Jean et la femme de ce dernier, Catherine, ont tous quelque chose en commun, la librairie.
C'est une librairie qui vaut beaucoup d'argent, avec des livres rares, des livres précieux, estimés environ 1 à 2 millions de francs.
Autrement dit, entre 800 000 et 1,5 million d'euros. Une coquette somme, de quoi attiser les convoitises.
Qui dit rareté, collection, dit intérêt financier, dit valeur. Donc pour eux, il y a quelque chose de très sérieux à fouiller, et de très bonnes raisons de fouiller dans cette direction.
Et les enquêteurs découvrent justement que depuis près de 8 mois, Laurent Ségala passait de plus en plus de temps dans la librairie de son père, à Lausanne, bien loin de son activité de chercheur.
Il cherche d'un côté pourquoi il a déménagé, pourquoi il se rapproche de son père, pourquoi il passe beaucoup plus de temps dans cette librairie. Est-ce qu'il n'y a pas des arrière-pensées ? Des arrière-pensées, prendre l'argent là où il est. Et effectivement, cette librairie représente beaucoup d'argent.
Les policiers s'interrogent. Avec un père très malade, Laurent Ségala aurait-il pu simplement vouloir éliminer sa belle-mère pour toucher le pactole ?
Ils se disent qu'il y a une valeur non négligeable à tous ces livres anciens, à ces références, et qu'il a peut-être intérêt, d'une manière ou d'une autre, à faire disparaître Catherine pour avoir accès à ce que représente financièrement cette librairie.
Pour en avoir le cœur net, les policiers auditionnent alors Béatrice Massé, la compagne de Laurent Ségala. Celle-ci réfute l'hypothèse des enquêteurs. Le généticien ne convoitait pas l'argent de son père. Et s'il voulait reprendre la librairie, c'était avec l'accord explicite de Catherine et Roger Jean Ségala.
En février 2009, avait été créée une société à trois avec Roger, Catherine et Laurent. Ça permettait de faire un entre-deux avant que la librairie passe complètement à lui.
Pour sa compagne, Laurent Ségala n'était donc pas un homme intéressé par l'argent. Une information confirmée par son supérieur hiérarchique au CNRS, Pierre Couble.
Dans sa façon de vivre, je ne vois pas ce qui l'aurait amené à être intéressé par l'argent soudainement. Ça me paraît difficile.
C'est un chercheur au CNRS, donc c'est pas par amour de l'argent qu'on devient chercheur au CNRS. C'est plutôt pour l'amour de la recherche. Il a un salaire qui est conséquent, mais relativement modeste par rapport à ce qu'il aurait pu gagner dans l'industrie pharmaceutique, par exemple.
Reste aux policiers à interroger la personne qui peut-être connaît le mieux Laurent Ségala, son propre père. C'est à l'hôpital que les enquêteurs suisses rendent visite à Roger Jean Ségala, âgé de 76 ans. Bien qu'affaibli, le vieil homme va défendre son fils avec vigueur.
Roger Jean Ségala a dit « Mais attendez, ça ne tient pas à votre histoire. » La librairie devait lui tomber tout de suite entre les mains. J'avais décidé avec mon épouse de remettre la librairie à Laurent. J'aurais remis le moulin à mes autres enfants. Le partage était tout à fait clair.
C'est même sa belle-mère qui a insisté, il y a des témoignages, c'est même sa belle-mère qui a insisté pour qu'il reprenne la librairie.
Elle, au contraire, va dire à beaucoup de proches « Je suis tellement heureuse que Laurent ait accepté de reprendre la librairie ».
Interrogé en exclusivité par le journaliste de Presse écrite Arnaud Béda, Roger Jean Ségala affirme que son fils n'avait aucune raison d'en vouloir à Catherine, bien au contraire.
Il n'y a jamais eu de dispute, ils s'entendaient bien. Laurent était très affectueux avec elle.
Pour le père, il n'y a donc aucun doute possible.
Il explique que les relations entre son fils et son épouse sont absolument harmonieuse.
Aurélia, l'une des filles du généticien, va même plus loin. Catherine et Laurent Ségala entretenaient des relations presque filiales.
Mon père, lui-même, il a presque toujours connu Catherine, donc ma belle-grand-mère. Il n'a jamais vu ses parents ensemble. Et mon grand-père, il s'est mis vite avec Catherine après que mon père soit né. Donc, c'est pas comme sa mère, parce qu'il a une mère. Mais c'est une personne de sa famille et au même niveau que son père.
Le libraire est formel. Son fils est accusé à tort.
Et non seulement il est emprisonné dans des conditions que l'on sait, mais en plus il est innocent. Personne n'a jamais connu des colères meurtrières comme ça.
Moi, je peux dire qu'il a jamais été violent, qu'au contraire, c'est une personne très calme, que je l'ai même jamais vu s'énerver réellement contre quelqu'un.
C'est au contraire quelqu'un qui, lorsqu'il a des récriminations, va construire son argumentaire et le dira calmement avec les mots, et il utilisera les mots qu'il faut, mais jamais de façon violente et spontanée, jamais.
Dans ces conditions, comment expliquer le comportement de Laurent Ségala sur la scène du drame? Pourquoi aurait-il nettoyé la mare de sang sur le sol? Pourquoi autant d'imprécisions dans son emploi du temps? Pour son père, il n'y a rien de mystérieux à tout cela.
Roger Jean confirme tout. Il confirme la phobie du sang, il dit que son fils n'a jamais de montre. Il confirme plein de points qui, à nous, comme un des mortels, peuvent paraître parfois un peu étranges, un peu mystérieux. Il confirme tout ça, Roger Jean.
Roger Jean a même sa petite idée sur ce qui a pu se passer au Moulin, ce fameux 9 janvier. Catherine a pu tomber nez à nez avec des cambrioleurs.
Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, pendant que les 10 jours que la maison était fermée, a pu repérer les lieux et lui sauter dessus pour voler, mais ensuite, bon, déranger ou on ne sait pas quoi. C'est vraisemblable, c'est très isolé.
La piste paraît plausible. Car de sources policières, comme l'indique cette carte, plus de 40 cambriolages ont été commis dans un rayon de 30 km autour de Morges la seule semaine de la mort de Catherine Ségala.
Il y a eu un gang de chirurgiens sur la Suisse qui ont commis énormément de cambriolages, y compris dans cette région, y compris à Vaux-sur-Morges.
Cambrioleur surpris, c'est une hypothèse. C'est arrivé dans la région 2 ans plus tôt, avec le décès d'une personne qui a surpris un cambrioleur chez elle. C'est pas tout à fait... c'est plausible.
Seul problème, en effectuant une perquisition le soir du drame, les policiers n'ont remarqué aucune trace de cambriolage.
Rien n'a disparu de la maison. Tout est là, l'argent est là, il n'y a aucune trace d'effraction, aucune trace de pas qui repart de la maison à travers les champs alentours.
Il n'y a pas d'empreinte digitale ou génétique qui appartiendrait à un tiers mystérieux. Cette thèse du cambriolage ou d'un rôdeur est rapidement écartée.
La piste du cambriolage écartée, pour les enquêteurs, Laurent Ségala est toujours suspect dans cette affaire.
Une volonté on le sent dans le canton de Vaud, on a trouvé un coupable et on veut que ce soit lui le coupable.
Il reste qu'après 6 semaines d'enquête, les policiers n'ont toujours pas réussi à établir le mobile du crime. Un témoin inattendu va pourtant faire une révélation fracassante. Le 24 février 2009, commissariat de Lausanne. Une certaine Barbara C., une des meilleures amies de Catherine Ségala, demande à parler aux enquêteurs.
Il y a une amie de Catherine qui approche les policiers vaudois et qui leur raconte que quelques jours à peine, fin décembre, quelques jours à peine avant sa mort, Catherine lui a fait part de certains soucis et de certains doutes qu'elle avait contre Laurent. Elle le soupçonnait de piquer dans la caisse, en gros, vu qu'une librairie de livres anciens, il y a beaucoup de cash qui circulent.
À en croire ce témoignage, les relations entre Laurent Ségala et Catherine étaient loin d'être parfaites. Les policiers élaborent alors une nouvelle hypothèse.
On pourrait imaginer un scénario que Catherine se rend compte de cela, soupçonne Laurent de piquer dans la caisse, sans doute des sommes pas très importantes, quelques centaines de francs, et qu'elle veut crever l'abcès, qu'elle veut lui en parler. Ça tourne mal. On s'énerve de part et d'autre, et puis voilà, on en vient au point, et à la dispute, à la bagarre, et Catherine se retrouve précipitée en bas des escaliers.
Pour les enquêteurs, ce témoignage est capital. S'il est avéré, les policiers tiendraient enfin le mobile du meurtrier présumé. Encore faut-il pouvoir élaborer la chronologie des faits avec précision. Lors de son audition, le généticien a affirmé avoir quitté la librairie vers 18h15. pour rendre visite à son père vers 18h45. Il serait reparti vers 19h15. Au final, Laurent Ségala serait donc arrivé chez Catherine entre 19h30 et 20h30. Un emploi du temps que les policiers vont s'attacher à vérifier minute par minute.
Les policiers qui ont consulté les ordinateurs de la librairie remarquent qu'il a éteint un des ordinateurs à 17h30. Donc ils supposent que Laurent Ségala a quitté la librairie à 17h30.
Et non, à 18h15, comme il l'affirme. Selon les policiers, Laurent Ségala se met alors en route pour l'hôpital de Morges. Il serait arrivé vers 18h, il serait resté 5 à 10 minutes, c'est ce que leur a déclaré son père. Ensuite, il serait reparti pour rejoindre Catherine, mais les conditions de circulation étaient délicates.
Il y a de la neige, il n'a pas de pneus neige, le moulin est à 4 km. On peut lui attribuer une demi-heure pour faire les 4 km sans pneus neige sur la route.
Toujours selon la version des enquêteurs, Laurent Ségala serait donc arrivé au moulin chez Catherine entre 18h30 et 19h. Il y aurait donc pour les policiers un trou dans son emploi du temps inexpliqué entre 19h et 21h16.
Il appelle les secours à 21h16. Que s'est-il passé pendant ces 2 heures? Et pourquoi est-ce que 2 heures s'écoulent avant qu'il appelle les secours?
Laurent Ségala a bien une explication à apporter. Il affirme que même s'il a éteint son ordinateur à 17h30 à la librairie, il est parti bien longtemps après.
Laurent Ségala dit non, pas du tout. J'ai eu encore un client, au moment où je m'apprêtais à partir, un client est entré dans la librairie, m'a acheté un livre. On a encore bavardé un moment et je suis resté en tout cas une demi-heure, 45 minutes dans la librairie pour pouvoir m'occuper de ce client.
Alors il ne se souvient pas du nom de l'acheteur, ni du titre du livre. La transaction se serait faite en liquide.
La famille de Laurent Ségala va alors s'employer à trouver ce fameux client qui constituerait un véritable alibi.
La défense de Laurent Ségala est allée très très loin, vu qu'elle a même lancé un appel dans la presse locale pour retrouver le client de cette librairie. Qui est donc ce mystérieux client qui est entré dans la librairie le 9 décembre à 17h30 pour acheter un livre?
L'appel à témoins publié, les proches de Laurent Ségala ont bon espoir. S'il retrouve l'acheteur, le généticien a de bonnes chances d'être innocenté. Seulement les jours passent. Et personne ne répond.
Malgré l'appel lancé dans la presse, aucune personne ne se manifestera auprès des policiers.
Une explication pourrait être qu'il venait d'ailleurs, que l'appel à témoins a été diffusé finalement dans la région, alors que cette personne peut ne pas l'avoir entendu.
Les policiers s'interrogent sur l'existence réelle de ce mystérieux client. L'affaire est en passe d'être bouclée. Ce n'est plus qu'une question de jours. Mais c'est sans compter un incroyable coup de théâtre. La famille de Laurent Ségala n'a pas dit son dernier mot. Elle conteste le premier rapport d'autopsie et commande une contre-expertise médicale. Mais pas à n'importe qui, au professeur Dominique Lecomte.
C'est la directrice de l'Institut médico-légal de Paris. C'est une dame qui s'est occupée de très très grosses affaires, de Lady Diana, de l'affaire Trintignant-Cantat, de l'affaire Borel, de l'affaire Aurore Drossard. C'est une femme donc qui a une certaine notoriété.
Et après des semaines d'analyse, ses conclusions sont saisissantes.
Pour elle, ce que l'on constate sur le crâne de Catherine Ségala peut être dû uniquement à la chute dans l'escalier. Or, jusqu'au moment où le professeur Lecomte publie son rapport, beaucoup avaient porté sur les fameux coups sur la tête que le rapport d'autopsie, le premier, percevait.
La médecin légiste française est formelle, Catherine Ségala n'aurait pas été assassinée. Elle aurait été victime d'un malaise cardiaque.
Un malaise initial cardiaque a pu être causé par la situation de stress et d'extrême fatigue de la victime et être à l'origine d'une chute dans l'escalier.
Une chute dans l'escalier. une chute qui aurait entraîné la mort de Catherine Ségala, l'histoire se raconte alors de manière totalement différente.
Madame Ségala avait un cœur fragile, qu'elle est rentrée chez elle au bout d'une journée assez pénible. Hein. Je crois qu'elle avait conduit seule depuis l'Italie avec son mari malade qu'il a fallu hospitaliser. Il y avait de sérieux éléments pour qu'elle fasse un malaise.
Catherine Ségala est en haut de l'escalier, toute seule au moulin, à une heure où Laurent Ségala est à la librairie. Elle est prise d'un malaise cardiaque. Elle tombe dans l'escalier. Sa tête heurte plusieurs marches et notamment une marche en béton ébréchée qui va lui trancher le cuir chevelu.
Ce rapport, c'est un coup de tonnerre dans une enquête qui, pour l'instant, s'oriente depuis le premier jour vers une thèse criminelle de manière certaine.
À partir de cette version, ce que dit Laurent Ségala est tout à fait plausible. Il a le tort de ne pas appeler les secours, mais il essaye de la ranimer quand il arrive au moulin et qu'il voit sa belle-mère à l'agonie.
Dernière information essentielle de ce rapport d'expertise français, l'horaire de la mort de Catherine Ségala. Là encore, l'analyse innocenterait le généticien.
Examen de la fonction gastrique à l'appui. La première thèse évoque l'heure du décès entre 15h et 21h. Cette deuxième expertise privée évoque, elle, un horaire beaucoup plus précis puisqu'elle situe l'heure du décès entre 15h30 et 17h. Et il est avéré qu'à cette heure-là, le suspect est à la librairie.
À en croire cette contre-expertise, Catherine Ségala serait donc déjà morte ou dans un coma profond quand Laurent est arrivé au moulin de Vaud. Avec de telles conclusions, le rapport Lecomte fait l'effet d'une bombe. Il dédouane entièrement Laurent Ségala. Mais pour la partie civile, il y a un problème. Ce rapport a été commandé par la Défense, et ce, à titre privé.
Il s'agit tout de même d'un mandat privé, c'est-à-dire qu'on essaie de demander à un expert. Écoutez, pour nous, la seule explication dans cette affaire, malgré tous les éléments qui accablent notre client, c'est qu'il doit s'agir d'un accident. Pouvez-vous, en analysant tout ça, pouvez-vous accréditer une telle thèse ?
Le procureur est face à un dilemme. Un rapport suisse accréditant la thèse de l'homicide ou un rapport français qui conclut à l'accident. Alors, qui croire ? La justice helvète n'a d'autre choix que de commander un troisième rapport. Septembre 2011, dernier rebondissement de cette affaire qui passionne la Suisse. Les résultats de la troisième et dernière expertise demandée cette fois par le procureur du canton de Vaud. Les conclusions du spécialiste Duarte Nuno Vieira, un médecin portugais qui fait lui aussi autorité en matière criminelle, sont en contradiction avec le précédent rapport. Voici en substance ce qu'il dit.
Elle n'est pas tombée uniquement... Elle n'est pas morte en tombant de l'escalier. Il y a bien eu ensuite une agression.
Une agression qui aurait été réalisée à l'aide d'un objet contondant, par exemple un marteau, même si les médecins ne peuvent l'affirmer. Deuxième élément balayé par le légiste portugais, Catherine Ségala ne serait pas morte d'une crise cardiaque. Et l'heure du décès serait impossible à définir avec précision. Ce troisième rapport vient balayer les conclusions du professeur Lecomte. De quoi susciter la controverse.
Lui va rendre un rapport où il va passer au vitriol, au karcher, le rapport de Dominique Lecomte.
On peut s'étonner qu'il y ait certains commentaires qui laissent entendre que Laurent Ségala est un individu très intelligent et imbu de lui-même, etc. Ce qui est un peu curieux, parce qu'on ne lui demandait pas ça. On lui demande d'où viennent les blessures. Point à la ligne.
Pour l'accusation, Laurent Ségala serait coupable, et ce pour plusieurs raisons. Deux rapports de médecins légistes concluent à l'homicide. Un emploi du temps selon les enquêteurs non justifié pendant 2 heures. Des traces ADN de Laurent Ségala retrouvées sous les ongles de la victime. Enfin, pour la partie civile, l'argument selon lequel Laurent Ségala n'a pas le profil d'un tueur ne tient pas.
L'habit ne fait pas toujours le moine en matière de justice. Vous avez des gens qui ont assassiné, violé en série, à qui vous auriez confié vos enfants sans la moindre réticence. et puis d'autres, inversement, qui ont un profil, un comportement de coupable épouvantable, qui font très mauvaise impression et qui sont des gens qui n'ont jamais commis ne serait-ce qu'un vol à la roulotte.
Mais pour la défense, il n'y a aucune preuve contre Laurent Ségala. Pas d'armes de crime, pas de mobile. Il n'y a qu'un seul témoin à charge, Barbara C. Mais pour les proches de l'accusé, ce témoignage est douteux. Laurent Ségala louait à Lausanne un studio appartenant à Barbara C. Or, propriétaire et locataire étaient en conflit depuis plusieurs semaines.
Laurent, lui, étant frileux, c'était l'hiver. Il chauffait pendant qu'il n'était pas là pour que, quand il rentre, il fasse chaud. Et cette dame, ça ne lui plaisait pas. Elle venait baisser le chauffage. Bref, il y a eu des mots. Donc, on voit vraiment que c'est un problème de conflit personnel, enfin, de conflit entre eux.
On peut s'étonner qu'on attache une importance aussi importante à une dame qui est marginale dans cette affaire. Parce qu'elle était témoin de rien du tout, si ce n'est qu'elle ne l'apprécie pas.
Sans preuve ni mobile contre leur client, les avocats de Laurent Ségala s'appuient principalement sur les conclusions du rapport du professeur Lecomte. Pour eux, les griffures seraient bien le résultat du transport du corps. Et surtout, ils soutiennent que Catherine Ségala serait morte des suites d'un malaise cardiaque dans l'après-midi, alors que Laurent était encore à la librairie. Le procès de Laurent Ségala devrait se tenir durant le premier semestre 2012. Les jurés auront alors la lourde tâche de décider si le généticien est le coupable ou un innocent qui a juste succombé à la panique.
Mais perdre les pédales n'est pas un crime. On peut être innocent, avoir la phobie du sang, tout faire en dépit du bon sens, ne pas appeler les secours pendant une aussi longue période et n'avoir rien à se reprocher.
En attendant son jugement, Laurent Ségala est toujours en détention provisoire en Suisse.